Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en ce beau mercredi, nombril de la semaine, en compagnie de Mel et Max, le philosophe Lacasse.
Hey, salut.
Bonsoir.
Bon nombril de la semaine.
Oui.
Il n'y a pas trop de mousse dans le tien? Tout va bien?
Tout va bien. Ça arrête pas de bien aller. Belle semaine pour toi?
Ben oui, ça se passe bien. Comme
on
tu dis, c'est le nombril de la semaine.
Mais oui.
Semaine fort occupée et oui, on se retrouve. C'est très agréable d'être de retour.
Ici, le soir.
Yes!
Ben oui, j'adore ça.
On est ensemble également la semaine prochaine.
J'aime le vibe le soir. C'est
oui.
Calme, c'est paisible, c'est propice aux discussions profondes.
Vraiment?
Il y a quelque chose, hein?
Mais vraiment, ça m'a pris du temps à m'habituer, mais je lâcherai pas ça.
Aux discussions profondes
j'adore
ou au soir?
J'adore tout ça.
OK.
Ensemble, la patente. J'adore travailler le soir maintenant.
Ouais,
j'adore
vrai.
La vibe qu'on a justement avec nos invités. On dirait que c'est plus posé. C'est, je sais pas, on est peut-être pas dans le rush de la journée.
Il y a quelque chose quand la ville sommeille.
Ouais.
Y a une espèce de calme qui flotte, une sérénité, une quiétude.
Oui, vraiment, on est seul au monde dans le studio.
Ouais, puis on a
c'est
comme un soupçon de ce que ça pourrait représenter travailler de nuit. Il y en a sûrement qui nous écoutent, qui travaillent de nuit, qui passent la nuit debout.
Sûrement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui nous, qui aimeraient nous écrire, qui travaillaient de nuit? On est d'ailleurs en live sur TikTok, La Sexploratrice, également le TikTok de notre invité, que je ne nomme pas tout de suite. Donc, 418-670-9098, dites-nous dans ça, là, d'où est-ce que vous nous écoutez présentement et est-ce que vous travaillez de nuit? Est-ce qu'on a des gens qui travaillent de nuit? Marc, j'aimerais revenir sur deux choses, en fait. Notre invité d'hier a vraiment fait beaucoup réagir. Ça a touché beaucoup de gens. Notre célébrante, la célébrante de la mort, donc Maude Galichand, que vous pouvez retrouver un peu partout là, sur les réseaux sociaux. Vraiment, je pense que ça a shaké des gens. Ça nous a amené à quelque part qu'on n'a pas nécessairement envie d'aller, mais moi, clairement, je la veux comme célébrante.
Ah, vraiment? C'est une
Il y a
personne...
des gens qui m'ont écrit aussi, qui vont la contacter d'ailleurs pour préparer tout ça, c'est fou.
Très unique comme personne. Vraiment,
vraiment.
Regarde, on est sorti de l'émission, puis je me suis mis à repenser aux discussions qu'on a eues pendant le show en soirée, puis ça m'a presque rendu nostalgique de la vie, alors que je suis même pas mort encore. Puis, je sais pas, moi je pense qu'il y a rien après la mort, alors peut-être que je pourrais pas être nostalgique de la vie lorsque je vais être mort. Je
pense que les lumières... au-delà de t'envoyer des signes qu'il y a quelque chose. Là,
ben, je sais qu'il y a des signes, puis je suis spirituel, mais j'ai vraiment l'impression qu'après la mort, moi ça arrête. Les lumières se ferment, le show est fini. Ramasse tes clics, tes claques, puis on s'en revoit pas.
J'aimerais inviter une voyante. Donc, si vous avez de bons voyants à nous référer, là, j'aimerais bien ça, avoir quelqu'un qui est en communication avec l'au-delà qui pourrait venir dans le show.
mais c'est une autre bonne question parce que toi, t'as fait affaire avec des voyantes.
Ah oui, oui. Monique.
Monique
Lambert, qui d'ailleurs est déjà venue dans le Spacecast, si je ne me trompe. Et vraiment, là, elle m'a divulgué des truc que personne ne pouvait savoir.
Est-ce qu'elle a communiqué avec l'au-delà ou elle faisait juste voir dans le futur?
Aussi. Puis pour l'au-delà, par contre, c'est une autre voyante ça, qui m'a shaké beaucoup par rapport à ça. Là.
Ah ouais?
Ouais. Elle m'a d'ailleurs dit que Bob Bissonnette, ça a l'air qu'il fait le party en haut.
Okay.
Elle dit, lâchez-les tranquille, arrêtez d'y parler puis de le réclamer. Il est bien où ce qu'il est. Mais là, je suis comme... OK, mais tu sais, ça, c'était facile de savoir que Bob était un ami, donc je me suis dit, bon, je vais en prendre et en laisser.
Ben, c'est une généralité.
Mais ben c'est ça. Tu sais, je pouvais pas vraiment prouver ça.
Ouais.
Elle m'a sorti quelque chose par rapport à une tante qui était décédée, par contre. Donc, tu sais, c'est ça. Il faut en prendre et en laisser. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait pas trop ce que ces gens-là peuvent trouver. Mais j'aimerais bien ça, éventuellement, avoir une voyante ou un voyant là, qui puisse venir nous épater en ondes.
Et tout ça pour en venir à notre discussion qu'on a eue hier avec Maude. C'est vrai qu'on pense pas à la célébration, à ce qu'on fait quand on meurt. Probablement parce qu'on veut pas penser à ça quand on est en vie.
On veut pas.
Ben, c'est drainant sur un moyen temps. On va
c'est
se le
déni,
dire.
Nous, carrément, qu'on
ben
fait.
Ouais, c'est ça.
Mais bref, contactez Maude Galichand pour vos services de célébration de votre vie. Faites-le avant qu'il soit trop tard. nous, vous pourrez pas le faire. Mais, bref, ça a touché beaucoup de gens. Et notre invité de lundi, Jean-Michaël de Partage au masculin, ça aussi, on a reçu beaucoup de messages, des remerciements, en fait, des hommes qui ont vécu des difficultés ou des hommes qui étaient contents d'avoir accès à ce service-là. Et je voulais juste vous nommer là, quelques organismes rapidement. Je vous ai dit que je vous reviendrai avec une liste d'organismes.
Nomme-nous tout ça.
Oui, on y va rapidement là, pour la capitale nationale. Donc, évidemment, Partage au masculin qui offre des cafés-rencontres, des conférences virtuelles, Ils peuvent répondre là, parfois à vos, parfois souvent en fait, à vos besoins. Mais il y a d'autres organismes, on en a parlé aussi. Donc, dans la capitale nationale, on a le Centre Autonomie. On a le GAPI également, donc le groupe d'aide aux personnes impulsives. Maison Oxygène de Québec et Service pour hommes impulsifs et colériques de Charlevoix. Donc, on a quand même des centres qui sont plus spécialisés pour certaines problématiques. On a aussi dans Chaudière-Appalaches le centre Ex-Equo. On a Entraide au masculin, Côte-Sud. Partage au masculin, bien évidemment, pour Chaudière-Appalaches et Québec. Se parler d'homme à homme, Inc. Si on va dans Lanaudière, parce que quelqu'un nous demandait là, pour Joliette, on a au cœur de l'île, Lille, L'IL. On a également le centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière. On a la Maison Oxygène Joliette-Lanaudière et le milieu d'intervention et de thérapie en agression sexuelle. Rapidement, vous pouvez trouver tout ça également là, sur Famille et soutien aux personnes sur le site www.quebec.ca. Donc, vous mettez ça dans la recherche et vous tombez là, rapidement quand même là-dessus. Il y a des gens qui répondent à notre appel de nuit. Donc, on a des gens qui travaillent de nuit. On n'a pas ton nom, par exemple. Alors, quelqu'un qui vient de Thetford, je crois, selon le numéro de téléphone.
Là. Bonsoir.
Bonsoir de Sainte-Marie. Bonsoir également. Mettez vos noms si vous voulez qu'on vous nomme. On a également, merci Martin qui nous salue. On a Kevin. On a Catherine qui vient de Saint-Féréol-des-Neiges. On a, mon Dieu, on a des gens qui nous écoutent de partout. On a Andy ici qui nous écoute de Charlebourg et travaille de nuit. Elle est très contente de nous retrouver en cette belle fin de soirée, mais surtout de retrouver Max.
OK. Ben moi aussi, je suis content de vous retrouver. Puis je lance un appel comme ça. J'ai besoin d'un signe si jamais vous nous écoutez de l'au-delà.
Hey, mais
cogner deux fois dans la porte du studio.
Moi, je veux pas de signe de l'au-delà. Moi, j'y crois, mais je veux pas les voir.
Étais-tu le genre de fille au secondaire qui aimait ça jouer au Ouija?
Non.
Ou au cégep,
j'ai joué et j'ai pas aimé ça.
Ah, OK. Ah, ouais,
non,
hein?
Non, vraiment pas. Moi, je veux aucun signe de l'au-delà. Oh non, non. Quand mon grand-père est décédé.
Mais
là,
c'est contradictoire ce que tu dis. Dans le sens où t'en vois tous les jours, puis c'est pour ça que tu crois à l'au-delà, mais t'en veux pas.
Non, mais je sais qu'ils existent.
OK.
Je sens qu'ils existent. Je veux pas qu'ils me fassent signe.
Pourquoi? Ça te
j'ai
fait peur?
J'ai pas envie. Oui, ça me fait peur. Mais je leur parle, tu sais.
Ouh!
Hey, salut, Amy de l'Hôtel-Dieu de Lévis!
What's up,
Amy?
Bonsoir,
Patrick!
Bonsoir, Patrick.
C'est le fun de vous savoir avec nous. On est en live sur TikTok, mais on lit pas les commentaires. 418-670-9098. On va tout de suite... Hey, on a même un auditeur qui nous écrit de Toronto. Bonsoir, bonsoir. C'est toujours le fun de savoir.
Tu fais là, Toronto, on revient à Québec. Dieu. Les loyers sont trop chers.
Partout qui nous écoute, c'est vraiment le fun. On a deux invités ce soir, en fait. Notre premier, on a l'habitude de l'entendre. C'est un invité hebdomadaire. On a avec nous le Doc Simard, psychologue.
Bonsoir, Doc.
Bonsoir.
Bonsoir, Doc. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Ça va brasser à soir.
Ça va brasser en tabarouette.
Ah oui, les sujets sont crunchy.
Mm-hmm.
J'ai hâte de voir ça.
Doc, en fait, le sujet m'est venu en discutant avec une amie.
Oui.
Puis ensuite, j'ai confirmé avec Max et avec d'autres personnes. Pourquoi? Est-ce que lorsqu'on est célibataire, souvent, OK, pas tout le temps, il y a des gens qui sont célibataires et vraiment pas bien dans leur statut de célibataire et cherchent à tout prix à se caser, donc ouais. Ils se sentent comme un manque, mais souvent, lorsqu'on est célibataire, on se sent complet, en plein pouvoir,
on
a
bien,
confiance en nous, on est sécure, tout va bien, on fait ce qu'on veut, quand on veut, tout ça. Et là, on rencontre quelqu'un qui nous plaît. Et là, soudainement, cette insécurité ici, on a l'impression de perdre un peu de pouvoir, de mettre l'autre sur un piédestal, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce qui fait qu'on perd notre équilibre personnel quand on se met en couple?
Ah, c'est une expérience tellement connue. On a bien des explications prêtes pour ça en psychologie.
Oui, ouais. Ça touche énormément de gens. Là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, chers auditeurs. Là. J'aimerais savoir, mais j'en ai parlé à plusieurs personnes et La majorité des gens me disaient que oui, effectivement, ça leur était arrivé. Oui,
ouais. Mais j'ai une théorie là-dessus, moi.
C'est quoi?
Ma théorie psychopop à deux balles.
Allons-y.
J'ai l'impression que lorsqu'on est en mode dating, en mode célibataire, on porte un masque sociétal. À tout le moins, on ne veut pas laisser transparaître nos blessures, nos traumas, les ondes d'ombre qui nous habitent facilement aux autres, puis quand on tombe en relation, peut-être qu'on se permet d'être un peu plus vulnérable, et c'est lorsque notre conjoint, notre concubin, notre concubine regarde ces fractures-là en nous, que ça nous permet de peut-être renouer avec notre fragilité.
Ben, est-ce que ça pourrait faire en sorte que comme on s'ouvre et qu'on est vulnérable, justement, on sait que notre conjoint nous a vus en situation de vulnérabilité et là, on a l'impression de reculer plutôt que de s'élever?
C'est toutes des belles pistes, des belles hypothèses. Puis moi, j'aimerais donner espoir aux gens en disant que c'est parce que c'est pas les mêmes compétences. La compétence de l'équilibre personnel et la compétence de l'équilibre conjugal. Il y a une qui est une compétence de travail intérieur, comme par exemple, je me connais, j'expérimente des choses, je suis autonome. Donc ça, c'est une compétence en soi là, qui est tournée vers l'intérieur, l'affirmation de l'individualité. Alors que quand je suis en couple, ben, c'est la compétence interactionnelle, c'est externe. C'est l'art de s'entremêler avec l'autre, de créer un « nous ». Mais ça, là, même si vous êtes parfaitement prêt dans un « je » qui est super sain, là, je suis en équilibre, ben, au moment de s'entremêler avec l'autre, c'est comme si vous allez ouvrir les frontières, puis là, vous allez glisser dans une zone où peut-être que vous êtes bien aligné là, pour glisser d'une manière sécuritaire, mais inévitablement, vous allez aussi glisser dans une zone de faille que même si vous ne vouliez pas ouvrir vos vulnérabilités, puis c'est pas parce que vous les masquiez, là, mais ça va révéler à l'intérieur de vous des choses peut-être que vous ne saviez même pas que vous portiez. Donc, c'est l'intimité relationnelle qui révèle des choses sur notre habileté à s'entremêler avec les autres. C'est pas la même chose que l'habileté à affirmer son individualité.
Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être voir ça d'un autre angle? Il y a quelque chose de beau quand même dans le fait de se permettre d'être dans cette intimité-là, dans cette émotivité-là, dans cette fragilité-là. Même si c'est pas facile, ça nous permet d'apprendre sur nous puis de se développer.
Ah oui. Le mot-clé, c'était intimité, je pense.
Ouais.
On descend. T'sais, je pense qu'il y a une racine du mot intimité qui vient de intimus, là, qui veut dire dans le temps. C'est qu'on combine à quelque part à l'intérieur d'un timing réciproque quelque chose que normalement on n'offrirait pas à quelqu'un.
Oui.
Donc cette descente-là, qui peut être une descente aux enfers, mais qui peut être aussi une profonde connexion. Là. C'est quand qu'on passe de deux personnes qui affirment leur « je » à un « nous », ben, il y a quelque chose qu'il faut qu'ils s'entremélangent. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer par la phase de fusion pour y arriver. Ils vont altérer leur jugement avec des expériences super fortes, là, coup de foudre, fusion, idéalisation, pour passer l'inconfort. C'est comme s'ils se droguent pour passer l'état inconfortable du nous, la création.
Mais ils vont devoir y faire face inévitablement à un moment.
Oui, possiblement. C'est là où il y a des relations.
C'est là où il y a une phase de désillusion.
Oui.
OK.
Il peut y avoir des relations plus saines ou plus adaptées que d'autres, mais c'est souvent une surprise pour les gens de réaliser que, oh, là, tout d'un coup, c'est qui la personne devant? Et qui suis-je, moi, dans cette relation-là?
Puis, est-ce que selon le partenaire, ça se peut que ça... Ben, en fait, ça se peut que ça arrive pas non plus, là. Tu sais, au fil du temps, je veux dire, oui, t'apprends à te connaître, ça. Au fil des relations où ça fait cet effet-là, finalement, où t'as l'impression de perdre ton équilibre. Peut-être qu'en rencontrant quelqu'un qui a un style d'attachement sécure, si tu l'es aussi, là... Peut-être que c'est plus facile et que tu ne fais pas face à ça, à ce déséquilibre-là.
Ben oui, il y a des gens qui vont avoir l'air en équilibre, mais qui ne le sont pas pantoute.
Ouais.
Il y a d'autres personnes qui vont porter des blessures, des antécédents, comme tu parlais de lien d'attachement, de style d'attachement, qui peuvent être très blessés. Mais parfois aussi, c'est le contexte qui nous présente de manière aléatoire une relation là, qui est super compatible avec notre besoin, nos blessures. Puis donc, il ne faut pas sous-estimer l'influence de la chance et du hasard.
Puis on dit, en fait, je l'ai lu récemment, puis j'en ai parlé quelques fois en ondes, il ne faut pas s'engager quand on est dans la phase de fusion et de passion.
Ouais.
Parce que c'est pas la véritable personnalité, c'est pas ça,
ouais,
la véritable relation. Ça, c'est le potentiel de la relation.
Peut-être que les gens ont besoin de l'essayer, ça.
Oui.
C'est comme si tu disais que les gens vont entrer en relation en étant parfaitement prêts. Ça n'existe pas, ça, selon moi. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de tester à différents niveaux de compétences le fait de s'entremêler avec les autres.
Mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas s'engager quand tu es dans la période passionnelle où tu es drogué par l'autre, que tout va bien. Puis, tu sais, inévitablement, je pense que tout le monde en a juste envie là, de plonger puis de foncer dans cette relation-là.
Ça peut quand même arriver rapidement, mais j'aimerais bien me placer, moi, en étape 3, on pourrait dire. Tu sais, aux critères de la passion amoureuse, il y a des critères qui sont plus saines. on va dire, de rencontre amoureuse. Puis je pense que l'attirance physique, c'est le critère qui est souvent celui, le numéro un. Là. On ne peut pas vraiment s'approcher en intimité de quelqu'un qui va nous provoquer un réflexe aversif, là, un heurt. Fait que ça prend au moins une attirance. Pas coup de foudre, mais attirance.
Ça ouais. peut. Est-ce que l'attirance peut se développer?
Ça, c'est un bon...
Je sais pas. Hein.
Non, il y a quelque chose de biologique, je pense, dans l'attirance.
J'ai pas l'impression que ça se développe. L'amour, ça se développe.
Notamment,
l'attirance,
la symétrie du visage, ça va provoquer, on sait, davantage de critères de choix. Il y a des macro-caractéristiques sexuelles qui provoquent des réponses automatiques.
C'est ça, en fait. Parce que là, je connais quelqu'un, okay, qui est en couple présentement, qui n'était pas du tout attiré par la personne.
Oui.
Au fil des rencontres, elle l'a trouvé gentil. Finalement, intéressant au fil des rencontres. Il n'y avait comme pas de pression de séduction, tu comprends?
Oui, c'est ça.
Et là, finalement, ils ont eu une relation sexuelle.
Oui.
Puis là, ça a été, ça a comme révélé quelque chose.
Bon, ben, d'après moi, c'est plus que ça a passé à l'étape 2, qui serait l'admiration. C'est que tout d'un coup, à force de connaître la personne, c'est plus juste la barrière d'entrée d'attirance qui rentre en jeu, mais plutôt la capacité de voir au-delà et de se dire, ah, tiens, la personne fait des bons choix. La personne... Hey, c'est une personne intéressante. Donc ça, c'est ce que moi, j'appellerais la consolidation. C'est l'étape 2.
Exact. Ça va au-delà de la beauté, tout simplement.
Oui, mais c'est rare les gens qui vont s'autoriser à aller là sans avoir passé par la porte d'entrée.
Mais lorsqu'on parle d'intimité puis de vulnérabilité, parfois délicate et douloureuse à aborder dans les débuts d'une relation, est-ce qu'on pourrait faire un lien entre ça et le rapport de force qui s'installe dans les débuts d'une relation aussi? Parce qu'il y a toujours un dominant et un dominé d'une certaine façon dans une relation. Il y a différents paliers. Moi, je le vois comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui tire la barque plus que l'autre. Est-ce qu'on peut faire un corollaire avec ça aussi dans cette vulnérabilité inconfortable qu'on peut ressentir lorsqu'on... établit une relation dans les débuts?
J'ai levé la main. On dirait que je suis pas d'accord avec ça.
Mais non. C'est vrai, ça.
Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui tire la barque plus que l'autre ou ça peut être en équilibre?
Non, moi, dans mon bureau clinique, quand je reçois des couples, c'est pas tant que je vois qu'il y a un dominant puis un dominé. Je vois davantage que le partage du pouvoir...
Les mots sont forts,
c'est
mais il y a
ça.
Quand même quelqu'un qui... C'est quand toujours plus la barre que l'autre. Ben, il y a quelqu'un qui trace la route et il y a quelqu'un qui suit, généralement.
Il y a des moments de la vie du couple où il peut y avoir des alternances.
Oui, c'est ça.
Par exemple, sur
c'est
le plan
fixe.
Financier, il peut y avoir une personne qui domine vraiment le thème de la finance. Et inversement, il peut avoir, inversement, sur d'autres thèmes, comme par exemple prendre soin de l'équilibre émotionnel des gens, ça peut être une autre personne dans le couple qui en prend soin.
Pas cimenté dans une sphère. Là. Je pense que ça se permute.
Mais voyez-le en termes de développement de compétences, je pense, puis vous allez être plus
dans
proche de la réalité.
Dans différentes sphères.
C'est
okay.
Ça. C'est pas systématiquement un fort, un faible.
Mais justement, le fait de trouver sa place dans ce rapport de force-là,
oui.
Dans les débuts d'une relation, est-ce que ça peut contribuer à cette, cette vulnérabilité délicate et inconfortable?
Ouais, ça a été étudié notamment dans les configurations conjugales avec les styles d'attachement. Puis il y a des recherches qui disaient que c'était le deuxième style de couple le plus viable, c'était des gens qui avaient des styles asymétriques fonctionnels. C'est-à-dire, c'est ce que tu décris, là. Une personne qui prend le lead puis une personne qui suit. Là, s'ils sont d'accord, là, c'est le deuxième style le plus viable de couple.
Est-ce que ça peut être un sécure avec un anxieux?
Oui.
Ça pourrait fonctionner.
Les sécures seront toujours ceux qui sont les plus attirants, selon la recherche.
OK.
Parce qu'ils apaisent quelque chose.
Donc, une question qui, je ne sais pas si ça peut venir... en lien là, avec notre sujet de ce soir, mais
oui.
Se donner sexuellement le premier soir, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la perte d'équilibre, justement, dans la relation? C'est comme si on se donnait entièrement. Après, on peut peut-être avoir l'impression d'avoir...
Il y a des gens qui ont accès à leur intimité sexuelle puis qui vont trouver que c'est comme une poignée de main. Hein. Alors que pour d'autres, c'est tellement précieux et sacré qu'il n'y a pas question que ce soit hors mariage.
OK.
Fait que je pense pas que...
Il y a pas de mauvaise... Tu sais, coucher le premier soir, il y a pas de mauvaise réponse. Oui, non, peu importe, tant que vous êtes bien là-dedans.
C'est ça, c'est pas bien ou mal, mais il faudrait réfléchir à quel est l'impact de partager cette intimité-là. À la fois pour moi, là, qu'est-ce que ça va me faire de partager mon intimité sexuelle à quelqu'un? Est-ce que c'est banal ou est-ce que c'est précieux?
Ouais. Est-ce que ça se peut aussi que... ce que la société pense du fait de coucher au premier rendez-vous, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, vienne intervenir dans la façon dont on voit les choses.
Oui.
Même si concrètement, pour nous, coucher le premier soir, bon, ça rentre pas vraiment en conflit avec nos valeurs, mais le fait que les autres pensent que ça le fasse, est-ce que ça peut
heureusement,
jouer
c'est
dans...
de moins en moins tabou, là.
C'est de moins en moins tabou, mais
j'ai
reste
l'impression,
que...
mais effectivement, je pense que ça peut avoir un impact.
Plutôt, mettons, tu rencontres quelqu'un, puis tu couches avec le premier soir, puis tu dis ça à tes chums de filles, ils vont faire « Hey, t'es allé vite! »
Ben, moi, j'ai vu des gens qui...
Peut-être pas toi, t'es un mauvais exemple, là, mais...
Ouais, non, mais je pense que dans notre génération, c'est moins pire, mais peut-être qu'autrefois, c'était plus mal vu.
Mais ça peut influer.
C'est parce que l'intimité, je pense que ça devrait être un aboutissement de quelque chose qui se développe et non pas la porte d'entrée. Parce que si t'as déjà accès, on pourrait dire, au plat de bonbons en commençant, est-ce que tu vas mobiliser les efforts pour pouvoir...
te rendre au plat de bonbons.
Entretenir ça, où tu vas te dire c'est toujours accessible, donc moi je prépare pas de repas, j'ai toujours accès au dessert.
Cathy Ducharme, qui était invitée là, ici avec Robbie, je pense,
ouais.
Si je ne me trompe, elle parlait d'un 3 mois.
Sans sexualité?
Ah ouais?
Mais ça, tu vois.
3 semaines ou 3 mois?
De l'autre côté, trop, c'est comme pas assez. En 3 mois, t'as besoin d'établir
les
bases.
Il n'y a aucune chimie.
Mais c'est ça. Si ça fonctionne pas 3 mois, c'est bien trop long.
Ça peut faire en sorte que la relation fonctionne pas, là, s'il n'y a pas de chimie. Est-ce qu'on peut s'entendre?
On est rendu des grands impatients, je pense, dans les modèles culturels qui nous sont présentés. Puis, c'est pas forcément l'impulsivité puis la recherche de plaisir qui est viable comme facteur de stabilité du couple. Il y a quelques générations, quand c'était les parents qui présentaient les enfants ensemble, qui les mariaient, ben, c'était pas forcément des mauvais couples parce qu'eux, ils avaient le recul pour pouvoir se dire « Attends un petit peu, nous autres, on a besoin de ça dans notre famille, vous autres, vous avez besoin de ça dans votre famille, on pourrait faire un échange, on va être plus forts tous ensemble. » Puis, avec ce recul-là, ça pouvait faire des mariages très bien.
Mais il y avait aussi très peu d'alternatives.
Ben aussi, c'est ça. C'est comme le désavantage. Fait qu'aujourd'hui, on est...
Pas de choix, c'est un choix. Là.
Je pense pas qu'on est ni meilleur ni pire aujourd'hui. C'est juste qu'on a une valorisation de l'individualité très grande. Mais ça a comme conséquence que les gens sont peut-être moins enclins à s'engager sur la durée puis à rester unis avec un projet commun.
Oui.
Donc, c'est vraiment... Le lien avec la perte d'équilibre personnel, c'est en lien aussi avec l'adaptation au changement.
Ben, c'est difficile de s'adapter. Fait que dès que vous faites un changement, là, que vous passiez de « je suis en équilibre personnel, puis là, je vais aller en couple » ou « je suis en couple, il faut que je réapprenne à être tout seul ». Dans tous les cas, ça va être difficile, là, cette période-là de transition. Puis pour aider à comprendre les gens qui demandent ben, « ça dure combien de temps? Combien de temps ça prend? » Je suis sûr qu'on ne peut pas donner absolument un chiffre pour tout le monde. Mais... De manière générale, on pourrait, mettons, se donner à peu près un an et demi là, pour se connaître après une grande définition, un grand choc, et aussi apprendre à connaître l'autre. Puis c'est un petit peu les théories sur le deuil ça, qui nous pistent là-dessus.
Puis ça, est-ce que ça peut avoir un lien avec justement la chute d'hormones après la phase fusionnelle, la phase passionnelle, l'ocytocine qui redescend, la sérotonine, tout ça? Ça peut
possible,
avoir un lien avec ça,
mais l'hypothèse du 1 an en lien avec le deuil, c'était plus des explications sociologiques, par contre.
Okay.
C'est-à-dire, passe toutes les fêtes du calendrier là, social dans ta nouvelle configuration. Donc, la première fin de semaine de Noël sans le partenaire, première fête de la construction sans le partenaire. Puis là, à un moment donné, à force de tout recélébrer différemment, ça créerait des empreintes à l'intérieur de nous qui nous diraient, bon, OK, voilà, maintenant, ma nouvelle identité, ça sera... Voilà. Hmm.
Okay.
C'est une question un peu champ gauche, mais si on prend ça de l'autre bord, lorsque ça fait longtemps qu'on n'a pas été en relation et on est nouvellement en relation, est-ce qu'il y a une phase de deuil qui survient? Tu sais, le deuil, c'est 5 étapes. Y a-t-il une phase de deuil du célibat qui survient dans la première année aussi?
Oui, c'est ça.
Qui arrive peut-être plus rapidement.
C'est pour ça que je faisais l'analogie dans les deux directions.
C'est ça, voilà.
Il y a un deuil du célibat à faire. Il y a un deuil de l'autonomie également pour savoir s'entremêler avec l'autre.
Mais puis je disais que c'était champ gauche, surtout parce que quand on commence une relation, on est bien. Je veux dire, on ressent plein de belles émotions. On n'a pas l'impression que c'est une phase de deuil, mais ça se peut que...
Mais tu as un deuil de ta liberté quand même.
Exact, on ressent des émotions contradictoires au final.
Oui. Donc, c'est pour ça que quand on est anxieux puis tout d'un coup qu'on fait face à une adaptation difficile, il y a 2 pistes de solutions à prendre. Oui, il y a celle de l'exposition, c'est essayer quelque chose de nouveau, là, mais il y a aussi la tolérance à l'incertitude puis à l'inconfort. Puis c'est peut-être là où, dans notre société, les gens ne sont plus très endurants. Dès les premières frustrations, il y a comme un bouton éjection là, tu sais, qui s'active. Alors que dans une configuration plus stable, on va être capable de traverser des difficultés ensemble.
Mais... Comment tu vis avec l'inconfort, toi, Mel?
Qu'est-ce que tu veux dire?
En relation.
Avec l'inconfort?
Mm-hmm.
Quel type d'inconfort, mettons?
Ben, quand t'es face à des situations qui te sortent de ta zone de confort, des situations qui t'amènent à te questionner sur toi-même et ta relation.
Ah, je me referme.
Est-ce que c'est typique?
Mais pas longtemps. Je me referme, l'émotion travaille, puis là, j'en parle.
Ouais, oui.
Dans 1 heure, c'est réglé.
Il y a des gens qui vont aller dans l'impulsivité davantage. Il y a des
très
gens
impulsif,
qui vont compenser dans autre chose. Il y a des gens qui vont faire de l'autosabotage parce que c'est tellement fragile. T'sais, le risque d'être heureux, et merde. Il y a beaucoup de gens qui font de l'autosabotage.
Mais oui, parce qu'ils sont bien dans des relations toxiques puis non satisfaisantes. Fait qu'ils vont tout faire pour aller dans le connu plutôt que d'aller vers le beau de l'inconnu.
Oui, c'est pour ça que je vous parle de tolérer l'incertitude et tolérer l'inconfort. Ça ne veut pas dire que je vous dis de souffrir à mort. Ça serait du masochisme.
Oui.
Donc, je vous recommande plutôt de parfois, quand vous vivez une vague d'inconfort, tournez votre regard vers vous, puis soyez donc un peu indulgent envers votre propre souffrance. Parce que si vous souffrez beaucoup, puis qu'il n'y a personne qui vient vous aider à l'intérieur de vous, ben c'est comme vous déresponsabiliser sur l'autre. Il n'y a rien de pire que deux adultes qui s'aiment comme des enfants.
Ouais.
Ils vont s'entre-accuser de toutes sortes de choses.
C'est bien dit.
Ils vont... C'est ça. Ouais. T'as appuyé sur la tête de l'autre, puis t'aurais dû faire ci, là, là.
Puis c'est un peu l'allégorie du gym, là, de l'entraînement. À la seconde où tu commences à sentir des douleurs quand tu t'entraînes, par exemple, quand tu lèves des poids, si t'arrêtes là, tu feras jamais de gain.
C'est vrai. Pas fou.
Sagesse.
Puis il y a des personnes quand même qui éprouvent moins de ou plus de difficultés à s'adapter aux changements. Il y en a qui sont plus fragiles, d'autres qui sont plus...
Les antécédents d'expériences difficiles, ça peut être très marquant. Imaginons une personne qui a vécu des trahisons par-dessus trahisons, par-dessus trahisons, puis là, elle se réessaye, là, ultimement dans une nouvelle relation, puis là, elle a de la misère à s'ouvrir. Est-ce que c'est parce qu'elle a un blocage ou parce qu'elle a la capacité de tirer un apprentissage de ses expériences? Donc, il faut essayer de l'examiner, ça.
Qu'est-ce que tu aurais à conseiller, justement, à ces gens-là qui ont vécu la trahison, qui vivent dans la peur, qui mettent tout le monde dans le même panier, puis qui soupçonnent, parce que ça peut être l'amour, là.
Oui.
De toujours être en doute, puis toujours questionner, toujours vouloir chercher.
Oui. Il va falloir faire des tests. Mais pas des tests dans le sens manipulation. Moi, je vous proposerais, de manière générale, d'expliquer à votre partenaire c'est quoi votre blessure ou votre méfiance là-dessus, puis lui expliquer les règles de votre test que vous allez faire. Pas lui faire passer un test à l'aveugle, ça serait de la manipulation.
Okay.
Je veux dire, il est possible que je sois plus insécure, je vais avoir besoin de que tu me rassures plus, tout ça. Donc, quand on donne à l'autre le code pour nous aimer, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir jouer adéquatement avec nous. Là.
Mais j'ai même conseillé à quelqu'un récemment d'en parler en début de relation. Ça peut faire peur à l'autre, mais en même temps, si elle en parle qu'elle a été trahie, elle a cette blessure-là, la peur du rejet, la peur d'abandon. Non, parler en début de relation, il me semble que ça fait juste donner comme
Mais même
une idée
si on
à
en parle, on peut en parler pendant des mois sans arrêt, puis ça changera absolument rien.
Non, mais le comportement de l'autre pourrait quand même être plus... Il va peut-être faire davantage attention.
Oui, c'est ça. C'est vrai que, par contre, ça serait important de bien le communiquer, mais ça ne règle pas tout. Puis, un peu comme la théorie des langages de l'amour, il y a des gens qui vont donner plus d'importance à ça, à la communication, puis que ça va être vraiment le centre de leur idée de l'amour. Puis alors que d'autres qui disent, ben moi, je m'en fous que tu me l'expliques, là, j'ai compris. Là, moi, ce que je veux, c'est qu'on se touche. Puis là, OK. Fait que là, ils passent leur message, leur sécurité par un autre chemin.
Là, on tombe dans les langages de l'amour, rendu là.
Fait que c'est ça. Fait que c'est important de savoir partager comme il faut, mais c'est également important de savoir tolérer la différence.
Oui.
Puis c'est une des choses qui fait que des fois, les couples vont s'escamoter ou briser trop tôt, là, c'est que les gens ne savent pas où leur limite de tolérer la différence. Fait que là, ils tolèrent, ils endurent, ils subissent des affaires à répétition, puis ils se reblessent. Il y a des gens qui s'auto-traumatisent.
Mais ça veut dire quoi, tolérer la différence pour toi?
Quand est-ce qu'on sait que...
Ben, moi, le guide que je vous donnerais, là, ça serait que quand vous êtes en intimité avec l'autre personne, alors écoutez ce que votre corps vous dit quand vous vous rapprochez de l'autre. Est-ce que votre corps vous dit « Ah! » Ou il vous dit « Parce que c'est les onomatopées...
Peux-tu refaire ça?
les onomatopées, ça ne sait pas mentir. C'est une réaction involontaire du corps. T'sais, si ça vous donne envie de vomir ou ça vous écœure la proximité avec l'autre, probablement que vous êtes déjà dans la zone de que vous ne devriez plus franchir. Là. Votre corps, il vous le dit « Je ne veux plus ça. » Puis si vous ne respectez pas votre corps, ben ça se peut très bien qu'il y ait toutes sortes d'autres mécanismes à l'intérieur de vous qui flanchent. Mais si votre corps vous dit « Youpi! Oh yeah! J'ai hâte de voir! » Puis là, des fois, il y a des gens qui interprètent mal les signaux. Parce que les papillons, là, ça ressemble beaucoup à la réaction de peur en réalité.
C'est vrai. Puis il y a quelqu'un récemment qui disait que si tu ressens énormément de papillons, Red flag. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est activé par quelque chose que tu connais ou...
Il y a des études qui ont démontré qu'on peut générer plus de sentiments amoureux chez des individus en leur faisant préalablement écouter des histoires d'horreur ensemble.
À cause du stress?
Oui, ouais. Ça crée une proximité.
C'est ça. C'est un réflexe de survie plus fort ensemble contre l'adversité.
Oui, exactement. Donc, ça crée vraiment un...
Fait que les gens sont artificiellement amoureux. Mais tu sais, s'ils ressentent pour de vrai cette attirance-là, ça veut-tu dire qu'elle n'est pas vraie si elle a été générée artificiellement?
Mais là, justement, là, je voulais qu'on parle de l'illusion apparente d'équilibre.
Ah oui. Ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Ben, je comprends pas, les autres, ils ont de l'air heureux. »
Ils ont de l'air.
C'est ça, le mot-clé. Ils ont de l'air. Puis là, moi, je dis toujours la même chose en thérapie aux gens là-dessus. Je dis « On ne voit pas la souffrance des autres quand on est aveuglé par la nôtre. » Parce que ça, c'est impossible dans notre stress, là, quand on est aveuglé, de voir les nuances empathiques dans l'autre personne. Fait que ça, retenez ça tout le monde, si vous ne voyez pas que les autres devant vous souffrent également, c'est que c'est le temps de s'occuper de la vôtre, votre souffrance. Nettoyez votre capacité empathique.
Mais là, attends un petit peu, là. Mais c'est difficile de voir la souffrance.
Ouais, mais toi, maintenant, tu sais que moi, je porte des souffrances en moi?
Ah oui, OK. On peut en déduire sans nécessairement le voir, sans y assister.
C'est ça. On peut le ressentir ou le percevoir ou l'éprouver. Puis une des preuves qu'on est en sécurité émotionnelle, souvent, c'est qu'on est capable à la fois d'être fort et vulnérable en même temps.
Très intéressant.
Oui, parce que comme ça, on peut être dans la maturité, dans le discernement. Puis là, on peut faire des tests avec beaucoup plus d'aisance. Pas des tests manipulateurs, des tests conscients pour pouvoir développer une nouvelle intimité.
Quel genre de test? Aurais-tu des exemples à nous donner?
Oui, bien, si on pourrait dire, c'est demander à l'autre des mécanismes de réassurance à certains moments donnés.
Comme?
Ben mettons dire, là, j'aurais besoin que tu me textes le matin, des bons matins à tous les matins. Parce que moi, si j'ai pas un bon matin, je me sens pas bien. Es-tu d'accord pour ça? Ou t'as pas le temps? Ou ça t'intéresse pas? Fait que tu vois, j'explique à l'autre personne comment m'aimer quand je fais ça.
Je comprends. Encore là, tu vois, ça revient encore au langage amoureux.
C'est similaire.
C'est quelque chose d'hyper important de connaître son langage.
Ouais.
Je ne sais pas si on peut les rappeler rapidement pour les gens qui nous ont pas écoutés. Donc, on a les paroles valorisantes, les petites attentions, les services rendus, les caresses, les cadeaux et...
Les services, tu l'as dit, les paroles valorisantes, oui.
Ah oui, c'est ça.
Il y en a cinq, t'as fait les...
Oui, j'ai fait les cinq.
Voilà.
Donc ça, en connaissant votre langage amoureux et celui de votre partenaire, parce que c'est pas nécessairement celui qu'on offre,
mais ça,
et
ça a
celui
été,
qu'on reçoit.
Ça a été étudié scientifiquement, ça aussi. Hein, puis c'est très inspirant, les trucs de langage amoureux. Mais par contre, dans la recherche scientifique, on a pu découvrir que c'est pas vrai que les individus séparent ça dans des catégories comme ça. Parce que dans la réalité, on ne peut pas les séparer aussi finement. C'est pour ça que gardez à l'esprit que ce sont des théories inspirationnelles.
Mais quand même, je sais pas si tu te rappelles, la sexploratrice et le psy, là, quand on a fait notre fameuse soirée, il y a une femme qui nous a parlé du fait qu'elle attend avec impatience une bague de son amoureux. Puis son amoureux, il est comme, je vais y acheter, mais je m'en fous, moi, de la bague. T'sais, c'est pas important pour moi, mais pour elle.
Ouais, ils sont très différents.
Oui, c'est ça. Fait qu'on a quand même une. Comment dire, une grande différence au niveau du langage et ça semble vraiment causer. Un petit conflit là, dans leur couple.
Ça peut exprimer dans les extrêmes des
incompatibilités.
C'est ça. Comme quelqu'un, moi, j'aime bien les classer là, du plus intime au plus objectif. Fait que, en partant du plus loin, et non pas du pire, il y a les cadeaux matériels. Un petit peu plus proche, il y a les services. Un petit peu plus proche, il y a les moments de qualité partagés.
Moments de qualité, oui.
Un petit peu plus proche, il y a la parole valorisante, la communication. Puis le plus proche, c'est le toucher.
Oui.
Fait que c'est quelqu'un qui est ancré dans le toucher, qui exprime son amour par ça. C'est sûr que ça se peut qu'il vive des frustrations s'il est avec quelqu'un à l'autre bout du spectre, là, qui
lui
base
aime
son amour par
des
cadeaux. Oui, c'est ça.
Mm-hmm.
Donc, les extrêmes, c'est sûr que ça peut, encore une fois, nous marquer le concept de différence ou de similitude.
Oui. Très intéressant. On a des solutions quand même à offrir à ces gens-là?
Bien sûr. Moi, je pense que si on abordait les solutions rapides là, sur les deux compétences que je vous ai parlé, là. Parfois, il va falloir travailler la compétence d'affirmation de votre individualité. Puis à d'autres moments donnés, il va falloir travailler votre compétence interactionnelle. Donc, les compétences sur votre intimité personnelle, je pense que le chemin royal, c'est prenez soin de votre corps. quand vous ne savez pas là, comment prendre soin de vous, là, que vous êtes mêlé, faites n'importe quoi qui prend soin de votre corps. Puis déjà, vous allez vous sentir plus léger, mieux. Donc, bien dormir, bouger, bien s'alimenter, bien éliminer.
La masturbation.
Ça, là, ça a un impact incroyable là, sur la qualité de vie des gens, sur l'humeur, sur le moral, sur tout.
Oui. Une belle petite phrase inspirante là-dessus qui dit « Il faut entrer dans le corps pour pouvoir le dépasser. »
Oh, c'est beau. Wow. Ooh, take care of your body. It's the only place you have to leave.
Wow. Oh. Oh là là. My God. Comme disait Confucius.
Exact. Puis après ça, une fois qu'on est bon pour prendre soin de notre corps, je pense qu'on peut prendre soin de notre monde affectif. Là, le monde affectif, il y a aussi des clés là, importantes comme validation, acceptation, humilité, compassion, gratitude. Hey, là, je vous donne un résumé hyper vite, là, parce qu'en réalité, ça peut me prendre 15, 10 heures avec des gens en thérapie à aborder ça là, dans le détail. Puis, une fois qu'on a pris soin de notre corps, de notre monde affectif, ben là, c'est là qu'il reste des ressources pour prendre soin de notre mental et fixer des objectifs. Tu sais, quelqu'un qui travaille sur lui là, dans sa nouvelle phase de célibat, puis qui va clarifier, bon, OK, qu'est-ce que je veux de la vie et de ma prochaine relation, peut-être? Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile de réfléchir adéquatement à nos objectifs, à nos critères, sans de tomber dans des critères, on pourrait dire, hyper capricieux, hyper trop rigides, dans un corps qui n'est pas en santé. Puis, donc, pour que les objectifs jouent leur bon rôle, il faut que la personne soit d'abord bien dans son corps, qu'elle aille nettoyer sa tempête affective, et là, elle peut travailler sur son monde mental avec plus d'acuité.
Il y a quelqu'un qui dit « Personne n'est pareil, il faut juste pas que la personne doit payer pour les erreurs du passé des ex. » Puis ça, c'est vrai. T'sais, accueillez la nouvelle personne, parlez de vos blessures, mais commencez pas à l'accuser de choses que vous avez vécues, mais qui sont pas... Prenez la réalité et
ça
pas...
Ça va arriver très souvent.
Oui. Ouais,
parce qu'on se répète. C'est ça, puis je pense que les gens qui ont été blessés ne se rendent pas nécessairement compte du pourquoi ils jettent ça sur, sur les épaules de leur partenaire.
Oui. Ouais. La relation va nous faire répéter des choses. Puis quand on tombe dans nos souffrances, admettons, à un moment donné, vous êtes plus insécure, vous êtes plus fatigué, vous vivez un choc émotionnel, bien, ça peut vous faire tomber dans la souffrance. Puis là, vous avez l'impression que la personne devant vous a vous fait mal de la même manière que vous avez déjà eu mal. Puis là, on projette sur l'autre des accusations qui sont en réalité destinées à une blessure du passé. Puis là, il y a une belle petite phrase aussi là-dessus.
Vas-y.
La France a dit « Ceux qui ne soignent pas leurs blessures du passé vont saigner sur les gens dans le présent qui ne les ont pas blessés. »
C'est pas fou. C'est pas fou, ça. Puis, il y a aussi les choses qui t'attiraient lorsque tu étais blessé vont te repousser lorsque tu seras guéri.
Wow! C'est bien dit.
C'est vrai, hein, ça aussi.
Des fois, on clique avec une personne qui était déjà présente dans notre entourage. Mais après avoir changé quelque chose à l'intérieur de nous, ah tiens, on l'aperçoit maintenant, cette nouvelle personne-là, qui était déjà là pourtant. Là. Mais c'est comme si on ne peut pas vraiment cliquer en intimité avec quelqu'un qui est très différent de nous.
C'est vrai. Absolument. Donc, on pourrait finalement là, terminer avec le mode, avec le relationnel.
Oui, ben, dans le fond, ce serait peut-être de respecter votre bulle. Hein, parce que s'il y a eu des méthodes de guérison qu'on a dit tout à l'heure personnelles, il y a aussi des... méthode de guérison relationnelle ou transactionnelle. Ça veut dire aménager donc un milieu de vie adéquat, c'est pour vous. Il y a des gens qui sont plus cocooning, il y a des gens qui sont plus type voyage.
Oui.
Donc, savoir ouvrir, savoir fermer, savoir également exprimer son rôle dans sa communauté, les aspects culturels, puis essayer de développer une ouverture à des projets communs. Parce que c'est vraiment à travers l'établissement de projets communs que vous allez pouvoir vous engager. L'engagement, ça perdure dans le temps à travers.
Oui. S'élever en amour, pas tomber en amour.
En thérapie de couple, moi, c'est souvent vers là qu'on s'en va lorsqu'il est question là, de est-ce qu'on reste ensemble ou on termine la relation. Ben, c'est souvent l'enjeu des projets communs qui est majeur.
Très intéressant. Docteur Simard, c'est déjà la fin.
Oui.
Oui, on doit aller à la pause et aller vers notre invité.
Oui.
Juste avant. Comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi, Doc Simard, psychologue?
Ben, il faudrait que les gens cherchent sur Internet « Dr. Paul Simard, psychologue », puis ils vont trouver mes coordonnées partout. Là, vous avez juste à me contacter, puis je vais vous envoyer tous les détails sur la prise de rendez-vous, notamment en couple ou individuel. Puis moi, je suis contre les listes d'attente, là, donc j'ai de la disponibilité rapidement si les gens veulent me voir.
disponibilité rapidement, mais tu as aussi des ateliers en ligne qui sont hyper intéressants. Là.
Oui, ils sont tous mis sur ton site web, d'ailleurs.
Ben oui, melanietrudel.ca ou lasexploratrice.com, vous pouvez retrouver tout ça.
Ah, c'est super pratique pour les gens qui ne veulent pas forcément passer par une consultation, mais qui veulent avoir un programme pour extirper tout le savoir que normalement, moi, je transmettrais en thérapie à quelqu'un, mais l'avoir accessible à vie via une plateforme de formation.
Oui, je connais personne qui a été déçu de ça. Même toi, tu as commencé à les
J'ai adoré, j'ai tellement appris.
Merci beaucoup, Dr. Possimant, psychologue. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous.
Merci, Doc.
On se retrouve le 13 mai. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit une invitée colorée. La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98h Radio X.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Sexploratrice Radio X.